les 10 heures à Paris, voici donc les trésors des musiques africaines.
Manu Dibango sur Africa numéro 1.
Bonjour, 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 mon cher Robert Tito.
Bonjour, bon dimanche Audouin Manou, bon dimanche à toutes et à tous avec la semaine de tous les dangers pour les bacheliers.
Ah, qu'est-ce que tu veux? Tout le monde est à l'écoute. Et à notre époque, nous, on allait voir sur les murs si notre nom n'était pas marqué. Bon, maintenant, il y a un autre système, on téléphone. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant pour savoir si tu es élu.
On rentre le numéro. Il faut savoir qu'il y a aussi des lycées qui la jouent vieille école. Bon, il faut savoir que c'est les Louis le Grand et autres qui préfèrent l'affichage.
La tradition, mon cher, la tradition, la tradition. En tout cas, tout le monde est à l'écoute et tout le monde espère, parce que les vacances, c'est pas loin. Est-ce qu'on va les passer dans le style joyeux ou bien dans le rayon tristounet qu'il faut refaire l'affaire?
Ah ben oui, sur toi, le rattrapage.
Voilà.
Vécu, parce que moi, j'ai eu à y aller pendant que les autres étaient déjà en vacances. Et puis, il fallait aller faire l'oral de rattrapage.
Ah, tandis que nous, Tito, nous sommes là tous les dimanches. Nous, on rattrape rien, on écoute plutôt. On voyage à travers le continent, musicalement parlant, naturellement. On vous présente les merveilles musicales de notre cher continent, l'Afrique.
Et oui, et l'Afrique, c'est pas simplement le nord, le sud ou encore l'ouest, c'est aussi l'est.
Oui, parce que bon, forcément, la colonisation est tellement entrée dans nos têtes qu'on ne sait pas ce qui se passe à droite, à gauche, peut-être même devant d'ailleurs, on ne sait pas. On est là où on tourne en rond, on ne sait pas que c'est un continent d'ailleurs. Parce que tout le monde est persuadé qu'en quand tu as dit africain, ça suffit. Alors moi, je sais pas si on parle africain d'ailleurs.
Eh oui, c'est une langue à inventer.
Voilà, parce que voilà. Par contre, la musique, le do, c'est le do, c'est le si bémol, c'est le si bémol pour tout le monde. Voilà pourquoi on a la chance d'être amateur de cette affaire-là. Et qu'on a la chance également de vous faire voyager tous les dimanches.
Tous les dimanches pour un voyage radiophonique en musique et en famille.
Voilà, donc comme d'habitude, il était une fois en première partie.
Il était une fois un géant de l'Éthiopie dont on va évoquer le parcours en faisant nos salutations d'usage, pardon, me rappelle Valentin.
Oui, on passe à la case qui fournit donc l'oxygène.
Et oui, et l'oxygène, c'est de saluer dans l'ordre, dans la famille et dans l'ordre de naissance.
Les papis.
Les mamies, les papas, les mamans, sans oublier
la progéniture.
Et tout le monde est obligé, évidemment, de respecter la case de la réclame.
Voilà.
Manu Dibango sur Africa numéro 1.
La radio africaine nous emmène dans un pays à l'histoire compliquée, mais avec des pages d'histoire glorieuses.
La reine de Saba.
Ou encore
les mines du roi, voilà.
Le roi Salomon.
Voilà, tout ça dans le package. Donc il était une fois l'histoire d'un enfant de ce magnifique pays qu'est l'Éthiopie.
Oui, un enfant d'un quartier qui s'appelle le Mercato, du côté d'Addis Abeba. Et ce quartier, il a fourni beaucoup d'artistes, mais notamment un des plus illustres qui a porté l'Éthiopie. Il s'agit de Mahmoud Ahmed.
Voilà, ce sieur-là, comme d'habitude, en général, c'est grand. Dans ce type-là, il naît toujours comme Jésus dans un truc, tu vois, un peu dégueu, quoi, tu vois. Et puis le destin fait que c'est lui qu'on retient, c'est lui qui porte haut le drapeau du pays, sans savoir, en plusieurs coups d'ailleurs, comme au 421. Il naît dans un quartier pauvre et puis il fait 36 000 boulots jusqu'au moment où ce qu'il considère comme pas le boulot, c'est celui-là qui marche.
On peut être cireur de chaussures devant des endroits prestigieux et pousser la chansonnette et devenir au fur et à mesure un homme à tout faire, notamment d'un club célèbre de l'époque, le club au nom bien trouvé, l'Arizona, finalement, il se fera remarquer.
C'est le rêve déjà. Note bien que quand on parle de ce type de personnage, il y a quelques semaines, on a parlé d'Otis, qui lui aussi a fait 36 000 métiers, avant de tomber sur le métier qui ne devait pas être un métier, mais qui est devenu un métier. C'est la même chose que pour Mahmoud Ahmed, qui a tâté un peu de tout jusqu'au moment où, en dernier ressort, c'est sa voix qui était sa voix.
Et c'est incroyable parce qu'à cette époque, tu le dis, le Don Manu, on rêvait. C'est une époque où les patrons de clubs arrivaient et disaient « Banco, tiens, ben, est-ce que tu sais chanter ? Viens sur la scène. » Parce qu'être cireur de chaussures pour les grands noms qui venaient à l'Arizona à l'époque et se retrouver sur le podium à interpréter des titres rock ou bien alors des titres de musique jazz ou locale, c'est quand même un coup du destin extraordinaire.
Oui, parce que tu ne calcules pas à ce moment-là. Le calcul n'arrive pas encore. Là, c'est la passion. Et le fait que même tu jouerais gratuitement d'ailleurs, hein, le fait que bon ben c'est un violon dingue qui devient un violon réellement Stradivarius après quoi. Mais au départ c'est un violon dingue, donc il y a pas match quoi. Tu chantes, c'est les gens qui trouvent que tu chantes bien et tout ça. Et toi-même tu ne penses pas faire une carrière avec ça, hein. Tu continues, quand tu as fini tu vas toujours cirer tes chaussures. Et puis au fur et à mesure par contre. La conscience arrive, les gens précisément demandent au patron, mais il est pas là aujourd'hui ton cireur là. Et le patron il commence à dire, tiens, pourquoi on demande ce gars là, allez me le chercher.
Voilà, et depuis, sur la scène.
Voilà. Tu entres dans une autre dimension.
Et une dimension assez particulière, parce que nous, les images qui nous viennent de l'Éthiopie, pour ceux qui ont été adolescents dans les années 80 comme moi, c'était la famine, c'était les guerres. Or, le Don Manu, au départ d'ailleurs de cette aventure de la Mara, tu m'as parlé de cette Éthiopie illustre avec une ville d'Addis Abeba, où il y avait le palais impérial, où il y avait des soirées, mais qui n'avait rien à envier à la jet set européenne.
Et puis, il y avait beaucoup d'orchestres avec définition jazz à la fin. Il n'y avait pas que l'African jazz, le Bembea jazz, l'Oké jazz. Il y avait aussi les Mahmoud jazz de ce côté-là. Et c'était la mode, costume, bien habillé et tout ça, pour la jet de la haute société, quoi. Alors, moi... le creux dont tu as parlé tout à l'heure, la misère et tout ça, le tam-tam pour l'Éthiopie, c'était là pour le situer dans les années 80 où nous avons fait un disque ici précisément pour cette Éthiopie qui soi-disant mourait de faim, hein, parce que là aussi il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'intoxication. Les Européens avaient repris cette histoire-là, on avait fait énormément de bruit autour de l'Éthiopie, si bien que nous-mêmes ici, on était persuadés qu'effectivement, ils mouraient de faim. Et pour la première fois, tous les artistes qui étaient à Paris, africains, se sont mis ensemble pour faire une œuvre commune. Et on a récolté pas mal d'argent à l'époque, on a avait 3 millions de nouveaux francs à cette époque-là qu'on avait récolté. Et Mori Kanté et moi, on a été chargés par TF1 d'aller porter cet argent en Éthiopie. Beaucoup de choses se sont passées, on a vu beaucoup de choses, mais enfin on a quand même pu les porter. Et puis Afrikare était là-bas... la femme de Martin, la veuve de Luther King, était là. Elle a entendu parler de notre projet. Quelques mois après, où The World est arrivé.
Eh oui, voilà. Côté de nos amis d'Amérique.
Voilà. Au moins pour cette opération, on a été les premiers à faire quelque chose.
Et le Don Manu parle de ce paradoxe de l'Éthiopie, parce que c'est vrai que dans leur histoire culturelle, il y a, et nos frères jamaïcains adorent ces parties de l'histoire, évidemment, ces figures prophétiques, en parlant d'Haïlé Selassie, il y a également aussi tout ce qui représentait le charme de l'époque, et les orchestres qui faisaient déjà naître ce style de l'Ethio-jazz. Et en parlant d'orchestre, il y en a un qui est quand même pas n'importe lequel, c'est celui de la garde impériale, qui va faire appel à Mahmoud Ahmed, et ça va être véritablement pour lui des années d'or.
Ben oui, une fois que tu étais choisi par l'empereur, inutile de te dire que tu avais la belle vie, hein. Je veux dire, tu étais partout là où il allait, il a mené son orchestre, les soirées officielles, tu faisais partie de tout ça, et puis ton portefeuille se ressentait forcément, hein. Alors, le seul bémol que je mettrais, moi, dans cette histoire-là, c'est que l'Éthiopie et les Africains, ça n'a jamais été une longue histoire terriblement d'amour, quoi. Nous sommes dans le même continent, il faut de temps en temps dire ça, c'est un peu compliqué. Moi, je suis allé à la Jamaïque, chez le grand là-bas, qui aimait énormément Selassie, évidemment. On ne pouvait pas toujours être d'accord, parce que pour un Africain, Selassie, ce n'était pas exactement le prophète que les Jamaïcains...
vénèrent encore.
Oui, vénèrent toujours. Mais c'était délicat, parce que c'est la première fois qu'on allait là-bas, et on trouvait les popes dehors, on trouvait pas mal d'escrocs d'ailleurs, qui venaient de ce côté-là. Mais comme la maison de l'Afrique, elle est bâtie là-bas, voilà, il y a toujours ce petit malentendu qui traîne, mais vive l'OUA, quoi.
Et après le départ d'Haïlé Selassie, en tout cas après la fin de son régime, arrivent les années sombres, notamment celle du tristement célèbre Mengistu.
Il est à Ouganda, lui. Voilà. Il est parti.
Enfin, on va dire assez tranquille. Il n'a pas eu.
Il est tranquille.
Il est plutôt tranquille.
Je pense qu'il est parti du côté de Harare là, hein, plutôt.
Alors Mengistu, d'ailleurs, quand il arrive, eh bien, il efface son expression, sa triste expression. Il efface le tableau de cette période, et ça veut dire que les Mahmoud Ahmed et toutes les autres stars entre guillemets de l'époque sont relégués au placard, certains mis en prison, arrêtés. Ahmed, lui, ensuite, va partir, il y a cette période de l'exil et des années américaines, et notamment du côté de New York, puisqu'il y a énormément d'Éthiopiens.
Oui, il y a énormément de chauffeurs de taxi, comme les Haïtiens, d'ailleurs,
Là-bas.
C'est là-bas, d'ailleurs, que j'ai rencontré Mulatu, qui est un des grands aussi de l'Éthiopie, en tant qu'instrumentiste, un vibraphoniste.
C'est exceptionnel.
Voilà. Et donc, je l'ai rencontré en même temps que Hugh Masekela. Mais là-bas, il y avait le Kobafaya, comme on dit, il y a le couvre-feu. Quand l'empereur est parti, notre Mengistu, là, donc, toute la vie nocturne, en fait, était coupée. Quand tu vivais dans un hôtel, ou bien quand tu invitais des amis éthiopiens à l'hôtel, ils étaient obligés de dormir là, parce qu'à partir d'une certaine heure, personne n'avait plus le droit de circuler en ville. Hein. Ça a duré pendant longtemps, cette affaire-là.
Et ça a été vraiment très très difficile, parce que lorsque l'on parlait, Mengistu, Haïlé Mariam, pour être très précis, lorsque l'on parle de cette période avec le parti Derg, c'était pas du tout évident. On a effacé beaucoup de bandes, beaucoup de vidéos, des musiques. Il en reste des photos où on voit Mahmoud Ahmed, Clown Gesese ou encore les
Mulatu,
avec des tenues qui nous font penser qu'ils sont à Monaco ou à Cannes. Or, c'est au palais impérial. Et finalement, il va reconnaître un revival, parce que les gens en exil vont emmener les œuvres et vont se souvenir de ses chansons. Ils vont lui offrir des scènes. Il va se produire du côté des États-Unis.
C'est une espèce de comeback. Hein.
Voilà,
un tout petit peu comme nos amis brésiliens Caetano Veloso, qui étaient tous émigrés à Londres. À l'époque des colonels au Brésil, quoi, toi, avec les Gilberto Gil, qui ont refait leur comeback, qui est heureusement, mais bon, avec des guillemets, parce qu'en ce moment, on ne sait pas si ça ne va pas revenir, mais ils se sont tous retrouvés à Londres. Mais alors, il y avait un paquet d'immigrés intellectuels à Londres à cette époque-là, extraordinaire. Hein.
Avec le tropicalisme que l'on connaît.
Voilà.
Et notre homme, Mahmoud Ahmed, qui est un jeune homme de 77 ans, comme il aime à le dire, il porte toujours très beau, très élégant. La voix est demeurée la même. Il est devenu la coqueluche avec le fameux Ethio Jazz à toutes les sauces. Il est passé en concert, à la Villette, un peu partout. Et il est quelqu'un aujourd'hui qui a... comme il dit, un regard sur son œuvre, dont il dit que parfois, c'est pas lui. Il a l'impression que c'est plusieurs personnages qui se sont succédés.
Il a vécu plusieurs vies. Hein.
Absolument.
C'était pas toujours le même. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un label ici en France qui a sorti énormément de disques éthiopiens. Ça s'appelle Les Éthiopiques, je crois.
Absolument. Hein. Signé donc par Bouddha Musique et Jules Fruchot, qui ont eu cette très belle idée pour redécouvrir. Et comme tu dis, Douamanou, il y a boire à manger, parce que c'est des œuvres. Il y en a des centaines et des centaines. Ils ont été jusqu'au volume 30 ou 35, il fallait nettoyer ces disques, il fallait les rééditer. Il y a beaucoup de vinyles aussi qui ressortent de temps en temps dans des boutiquiers à Londres ou à New York.
Ouais, et puis il y a un orchestre français, de jeunes français qui jouent énormément, qui est spécialisé dans la musique éthiopienne. J'ai joué même avec eux, je me rappelle pas de leur nom, mais enfin, ils jouent énormément de la musique éthiopienne, ce qui est rare parce que les jeunes orchestres, c'est souvent à New York ou bien Londres, ici en France, quoi.
On va replonger dans cette période qui est une période qui est un peu l'âge d'or d'ailleurs de Mahmoud Darmène. Ça, c'est bien avant cette période du Négus rouge et c'est bien avant que l'homme dont on parlait, parce que Mengistu est parti ensuite, il avait eu le gîte et couvert chez Robert Mugabe. C'est lui qui l'avait accueilli.
Si, monsieur. Donc, voilà, Robert.
Et plongé dans des morceaux, alors des morceaux comme Alémier. Qui sont des musiques de Amanou. On a l'impression que ça pourrait être dans un James Bond ou dans une épopée. On a vraiment tous les arrangements qui nous rappellent la qualité sonore de l'époque.
Oui, c'est leur musique, elle est frontalière de plusieurs cultures, en fait. Il y a un peu l'Orient là-dedans, il y a un peu le côté asiatique là-dedans, il y a un peu le côté africain. C'est un mélange, un savant mélange dans leur son. Mais c'est spécial parce que tu arrives là, c'est pas tout à fait africain, il y a de l'africain dedans, mais en même temps il y a d'autres influences.
Et il y a des influences orientales très marquées, parce qu'il y a beaucoup de violons. Ouais. Il y en a même des fois trop, certains disent que cette musique était beaucoup trop sirupeuse, alors qu'est-ce que vous voulez? Des violons, évidemment, des fois ça amène au romantisme, et puis Mahmoud Ahmed le revendique, et il parle de cette nostalgie, la nostalgie des nuits d'Addis Abeba, Addis la Belle, comme dans Yeshi Areghetu, qui est un morceau où, alors, quand on l'écoute, on a l'impression que ça pourrait être chanté par n'importe qui.
Oui, mais c'est un crooner, hein. Faut pas oublier, au départ, c'est quand même un gars qui a la voix qui porte, surtout sur la jante féminine, hein. Voilà, il a une voix réellement, disons qu'il y a du miel dans sa voix.
Almaz est une autre chanson, alors enregistrée en live, parce que finalement il avait lui aussi son orchestre, le Ibex Orchestra. Alors ils n'étaient pas 5 sur scène, hein. Quand ils étaient là, il y avait les moyens, tu le disais, ils étaient une trentaine.
Je veux dire qu'à l'époque de Franco, on comptait pas non plus quand on aimait.
On ne se refusait rien.
Il y avait les big bands. Tu allais chez Fela, c'est la même chose, c'était la luxuriance, tu allais chez Cabasele, c'était des big bands, effectivement. Il y a eu une époque comme ça où un orchestre à l'économie comme Rico Diaz, c'était très rare.
Alors là, pas d'économie, parce qu'il y a également de très belles sections cuivres, le Doha Manou, tu disais, quel que soit l'endroit où on se trouve, dans ces années-là, les cuivres en avoir derrière soi sur scène, pour le grand orchestre, c'est une chose qui était normale.
Ah oui, c'était une richesse. Et puis, ils avaient aussi le fait que c'était des pays où on pratiquait les instruments avant. C'est pas dans tous les pays en Afrique et sur la côte on pratique le... C'est surtout, en général, du côté anglophone qu'on pratique les cuivres. Il y a eu une étude là-dessus. D'ailleurs, les Français avaient fait toute la côte à un moment donné pour repérer les gens qui sont sensibles à ça, à quel type de musique, à quel type d'instrumentation, qu'est-ce qu'ils aimeraient. Alors les gens comme Iti Mensa, évidemment, le Ghana, c'était plein de cuivre.
Alors fanfare et puis aussi armée, tant qu'à parler de l'orchestre de la garde impériale, tout le monde connaissait ces classiques. Et puis un titre qu'on va pas jouer mais qu'on va juste préciser, le fameux Guy Chamoué qui apparaît aussi sur pas mal de compilations, c'est des morceaux que Mahmoud Ahmed continue à jouer aujourd'hui. Alors c'est un rock des années 60, le son était pas tellement au top, c'est pour ça qu'on pouvait pas le diffuser, on va le nettoyer. C'est du rock, il manquerait plus qu'une voix de je sais pas quel rocker américain et on se croirait alors de l'autre côté de l'Atlantique.
Oui, mais c'était l'époque où il n'y avait pas encore, disons, de musique identitaire. Les artistes comme les Calais, comme nous tous, en fait, on jouait l'air du temps sans savoir qu'on était chargé de mission pour tu es Camerounais, il faut que tu joues que la musique camerounaise, tu es Béninois, il faut que... C'était pas encore dans l'air du temps, hein, parce que sinon tu aurais pas eu des amateurs de salsa, de musique cubaine et tout ça. On jouait ce qu'on avait envie de jouer, on n'était pas encore entre guillemets chargé de mission. Ça, après les indépendances, que les gens ont commencé à dire, ah, mais il faut faire la musique congolaise, il faut faire la musique. Non, les Congolais, eux, à part, ils étaient déjà nombreux, ils avaient une musique, ils avaient une identité dans la rumba, ce qui n'était pas le cas de tous les autres pays, d'ailleurs. Ils avaient beaucoup d'avantages. Toujours ce fameux émetteur qui allait jusqu'à 3h du matin, où tout le monde écoutait Congo. Nos émetteurs, un demi kilowatt, à 10h, c'était fermé. Automatiquement, tu passais à la musique congolaise, quoi. Donc, on peut mettre le Congo, les deux Congos, à part. Mais tous les autres pays, on jouait pour le client. S'ils demandaient un tango, on jouait un tango. S'ils demandaient un boléro, bon, de temps en temps, il y a la Bélé qui arrivait, il y a le Makossa qui arrivait, il y avait le High Life qui arrivait. Mais il faisait partie d'un tout. C'était pas uniquement High Life parce que tu es. C'est devenu tu es après.
Eh ben, nous, on le pratique si bien tous les dimanches et on vous offre la première partie du jukebox Mahmoud Ahmed, autant dire un aller simple vers le bonheur en Éthiopie.
Et Valentin va nous faire une tune dans
le bastring.
Manu Dibango sur Africa numéro 1.
ቱን መድሃኒቱን ከደካማው ልቤ ልፍታ ሰንሰለቱን እየው ድማሙ እየው ድማሙ እየው ድማሙ እየው ድማሙ
Manu Dibango sur Africa numéro 1.
I'm like a chino do, baby.
dişim almaz yiyebilirim sıma otur dişim almaz menedane
sur Africa numéro 1.
Yeshi, 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 hare gintu, ye gintu. Sintun, 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 vecele dra, le mare de, ieși scrieu de.
Ieși hare gitu, e cătitu, e nizără buzu. Sintun, vecele dra, le mare de, ieși scrieu de. Ieși hare gitu, e cătitu. Sunt un dege letnal în malăde, ieși și scălăbde. Ieși hare ghitu să-mi făcne, ieși zărăbzu, pe care ca ieși în alte fa. Ai găbani malu la pati să plec îndegâna Beni așufată Ieși hare ghitu, e cătitu E nezără bizu Sunt un lege letnal în malăde Ieși scălăbde Ieși hare ghitu, e cătitu, e nezără buzu. Sunt un dege letnal în malăde, ieși scălăbde. Amna lo benatish babatish met choma sel
Didi Bongo sur Africa numéro 1.
L'immense Mahmoud Ahmed qui continue à étaler son talent, notamment dans le Black Summer Festival il y a quelques années à Paris, il reste toujours très prisé. Et puis la collection éthiopique dont parlait le Doyen Manou a beaucoup aidé à ce que l'on appelle son revival.
C'est exact qu'en dehors de la musique de l'Afrique de l'Ouest, les gens prêtent beaucoup attention à ces musiques qui viennent de l'Éthiopie parce que c'est nouveau. Dans le marché de la musique ici, ça amène une autre couleur, effectivement. Et depuis que ces disques sortent et qu'il y a des orchestres, notamment, je n'ai pas le nom de cet orchestre malheureusement, ils ont fait des disques, ils ont même fait venir un chanteur éthiopien dans un de ces disques. Donc il y a de plus en plus une curiosité vers la musique de ce coin d'Afrique.
Alors c'est un clin d'œil d'ailleurs ce dimanche pour ceux qui voudront aller se balader. Il faut qu'on leur fasse un clin d'œil parce qu'eux revendiquent et mettent en avant leur culture. Il y a les restaurants éthiopiens à Paris, notamment l'Ethiopia et l'Abyssinia qui se trouvent respectivement rue du Chemin Vert et l'autre du côté de la rue Gara. Quand on rentre, on est vraiment plongé dans l'ambiance de l'Éthiopie avec la fameuse pâte où on agrémente soi-même avec les choses.
C'est vrai qu'elle est bonne, la nourriture.
Ils sont très, comment on va dire, ils jouent collectif autour des assiettes, et c'est toujours avec une musique qui plaît beaucoup, et c'est des lieux où il y a des célébrations, notamment les mariages, et dans les mariages, il y a le tube de Mahmoud Ahmed, et avec ça, Doyen Manou, il est tranquille pendant des décennies, parce que de toute façon, c'est sûr d'être joué dans les fêtes familiales.
Oui, si c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est le morceau des mariages.
Le morceau des mariages, Yit Barek, et là, on est vraiment alors dans les chants un peu sahéliens, ce qui fait que ça traverse les frontières très rapidement.
Sonorité à part, il faut dire que en dehors de ça, c'est une très belle race. Hein. Les femmes sont très belles, les femmes éthiopiennes... Elles sont très belles, donc le romantisme n'est pas loin.
Avec des films et des scénarios qui représentent, qui ressemblent un peu à ceux de Bollywood d'ailleurs.
C'est ça.
Pour
c'est
aller ça. De ce
peu,
côté-là.
Il y a un peu de ce côté-là. Tu parlais des restaurants, mais il y a aussi des magasins où on achète des souvenirs venant de, par exemple, vers la place de la Réunion. Il y a un grand magasin tenu par des Éthiopiens qui vendent des objets uniquement, essentiellement éthiopiens. Africains, certes, mais plutôt à base de l'Éthiopie, quoi.
Notamment ces étoles et ces pagnes tissées.
C'est ça.
Alors, l'Éthiopie qui abrite le siège de l'Union africaine, mais qui est aussi confrontée ces derniers temps à des écarts de fortune. Addis Abeba devient une des villes les plus chères du continent. Le fossé entre les classes donc se creuse de plus en plus et il n'est pas rare donc d'observer des files d'attente pour des bons alimentaires. C'est un des points d'actualité en tout cas qui a un peu défrayé la chronique au moment de la dernière assemblée de la CAF où Ahmed Ahmed, le successeur d'Issa Hayatou, a été élu. Et beaucoup de personnes voient en cela un côté qui est un peu à l'américaine. C'est vrai que
c'est-à-dire, tu vois, les plus riches deviennent plus riches et les plus pauvres plus pauvres. Donc le juste milieu est fluctuant en ce moment. Il y a beaucoup de richesses en Éthiopie, c'est vrai, mais en même temps, tu as plein de mendiants un peu partout dans la rue. Il y a plus de juste milieu comme à un moment donné. Il faut espérer que quand même les plus riches. On a même le même phénomène un peu en Occident. Ici, les gens se plaignent que les riches deviennent de plus en plus riches. C'est un phénomène. Tu vas en Afrique, c'est pareil. Hein. C'est ce côté binaire qu'il y a maintenant. Où tu as, où tu n'as pas, mais au juste milieu, il n'y a pas. Alors, chaque pays cherche le milieu.
Et oui, et en tout cas, le juste milieu pour nous, c'est de consacrer le tube de Mahmoud Ahmed, Ere Mela Mela, alors plus de 45 ans, mais il n'a pas pris une ride.
Non, à tel enseigne que tu as pris la version live.
Et oui, du côté de Fiesta 7, parce que il est vrai que ce morceau, eh bien, c'est notre cher Doremi Colpa Copoul qui adorait ce titre.
Ah ben, il n'était pas le seul. Il nous l'a fait aimer, en fait, parce que c'est par lui, personnellement, que moi j'ai découvert ce bonhomme. Et il se passe pas en général. Toutes nos saisons ici, on le joue au moins deux ou trois fois. Mais là, on le met dans le contexte spécial pour Mahmoud Ahmed. On l'a fait il y a quelques années, mais bon, ceux qui écoutent maintenant étaient peut-être pas là. Hein.
Eh oui, redécouvrez ce tube version Fiesta 7 et on le dédie à Do Rémy, on le dédie également au grand Schtroumpf, Jean-François Bizot.
Voilà, donc dégustez avec nous, vous qui êtes ou taxi ou bien dans les hôtels d'État ou enfin qui êtes dans un boulot quelconque ou tout simplement à la maison.
Bongo sur Africa numéro 1. Sur Africa numéro 1.
Yeshi, 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 hare gintu, ye gintu. Sentun, 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 de jeletna, de marebe. Yeshi, skeleude.
Yeshi, hare gitu, ye ketitu. Yeni zerebizu. እንደጅ ለጥና ለማነድ ይጂሽስ ከነብድ ይሺ ሀረጊቱ የከቲቱ የኔ ዘረ ብዙ ስንቱ እንደጅ ለጥና ለማነድ ይጂሽስ ከነብድ
Legenda
Africa numéro 1.
Alors ça nous donne envie de dire à nos amis éthiopiens Endemen Ardek, ce qui veut dire bonjour. Alors je me suis entraîné, hein, Douamé.
Ah ouais, ouais, parce que dis donc, tu l'as
c'est
dit.
C'est pas évident.
Non, non, moi, j'aurais même pas pensé à ça, moi.
Un beau clin d'œil à l'Éthiopie.
Voilà. Écoutez, 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 écoutez.
Alors, il y en aura d'autres, hein, Tlaoun Gessese ou alors Esteke Mulatu. Il y aura en tout cas un très beau voyage en Éthiopie. Mahmoud Ahmed n'est qu'un des papes de l'Éthio-Jazz. C'est comme ça qu'on l'a surnommé.
Mais Mulatu, un jour, comme il passe souvent en Europe, en France, je ne sais pas si son manager ou bien son éditeur nous écoute les dimanches matins ou sa maison de disques. Ce serait bien de l'inviter ici. Il ne parle pas français, mais bon, nous pouvons quand même nous arranger. Hein.
On s'arrangera en anglais et qu'il parle aussi couramment.
Yes, 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 sir. En tout cas, je viens du Brafol. Malheureusement, on ne peut pas faire du quatre mains ici.
Eh oui, c'est très difficile. En tout cas, ce qu'on peut faire, c'est de recevoir nos invités de la Maraboutique et ce sera juste après la pub. Nous reviendrons sur cette fameuse affaire de la vengeance d'Aïcha Kadhafi avec son auteur.
Deuxième partie très littéraire, donc.
Africa numéro 1.